Les Mille et Une Bulles. Chaque semaine, un entretien avec un auteur BD. Une émission présentée et animée par Chris Arnal.
Bonjour et bienvenue sur les ondes de Radio Présence Figeac, avec, comme chaque semaine, un invité pour les Mille et Une Bulles. Et nous avons cette fois la chance d'accueillir Sylvain Aimès. Sylvain, bonjour, comment vas-tu ?
Bonjour, ça va très très bien.
Merci beaucoup d'avoir accepté donc de répondre à l'interview des Mille et Une Bulles. Et nous allons commencer direct dans le vif du sujet avec la question que je dis rituelle, mais c'est vrai. D'abord, dis-nous quels sont les BD qui ont bercé ton enfance ?
Oula, il y en a beaucoup.
Eh bien, impeccable, vas-y.
J'ai grandi dans les années 90. Et à cette époque-là, contrairement à ce que les gens pouvaient penser, j'étais pas fan du tout de Tintin. J'étais génération Spirou Magazine.
On l'a tous été.
Avec... Pardon ?
Je dis on l'a tous été.
Oui. Bah, il n'y avait pas grand-chose en presse jeunesse à part Mickey et Spirou.
C'est vrai.
Et Mickey, c'était trop petit pour moi, donc c'était Spirou. Et j'ai grandi avec Daniel Cox, avec Westerlin, avec Malik... Avec tous ces gens qui sont devenus mes amis aujourd'hui, avec Carpentier. Et voilà, c'est la lecture que je lisais. Jeannette Pointu, Pauge, Agent 212.
Agent 212, oui, comme ça. En fait, oui, on a vraiment les mêmes références. Parce que oui, Malik avec Cupidon, c'était fabuleux.
Voilà, c'était ça. Et Archicasse.
Oui, c'était vraiment fabuleux. Et puis bon, qui ne connaît pas l'Agent 212, bien sûr. Ça, c'est vrai. Ouais, toi, on a un peu les mêmes références. Et c'est ça qui t'a donné envie de devenir dessinateur de BD ou pas spécialement ?
Bah, personnellement, je me souviens plus trop. Mm-hmm. J'ai commencé la BD, j'avais 10 ans, j'ai eu ma première publication, j'avais 10 ans, donc c'était il y a 30 ans. Je me souviens plus trop ce qui traînait dans ma tête à cette époque-là. Tout ce que je sais, c'est que j'ai toujours dessiné, c'était toujours mon évasion en moi. Et aujourd'hui, c'est mon métier.
Alors c'est bien parce que pour l'anecdote, parce que j'ai lu des interviews que tu as fait ailleurs bien sûr, et en fait tu te déclares donc dessinateur officiellement depuis CM2.
Oui c'est ça, depuis que j'ai 10 ans, j'ai 30 ans de carrière. C'est en fait pour moi la carrière d'un artiste, elle commence à la première publication officielle, et à 10 ans j'avais deux pages dans un mensuel municipal, donc pour moi c'est une première publication officielle puisque ça a été à la vision de plein de gens.
Et c'est ça qui t'a mis le pied à l'étrier, c'est après que, j'allais dire à 10 ans encore, bon, il y a l'école, c'est sûr, t'as pas pu t'y consacrer entièrement, mais...
Oui, il y a l'école, il y a les études supérieures,
voilà.
Il y a surtout les parents qui poussent en disant la BD, c'est pas de la lecture, c'est pas la littérature. Je viens d'une génération où la BD, c'était pas aussi populaire qu'aujourd'hui, donc en fait, pour avoir le Spirou toutes les semaines, c'est ma grand-mère qui m'y avait abonné en contradiction avec son beau-fils.
Parce
que mon père, c'était hors de question que j'ai des bénévoles dans les mains. Et elle, pour l'embêter, hop, je vais l'abonner. Et toutes les semaines, je recevais le Spirou. Et je m'évadais avec les scénarios de Westerlin. Je rigolais avec les blagues de Raoul Covin et plein d'autres auteurs, quoi.
Alors, je vais pas me mêler des histoires de famille, mais du coup, ton papa, il t'en veut pas maintenant d'avoir fait de la BD ?
J'ai plus de contact avec ma famille.
Désolé.
Non, il n'y a pas de souci. C'est pas. J'ai toujours été un petit peu en conflit et incompris, donc automatiquement, quand on est adulte, après on s'éloigne un petit peu.
D'accord. Alors du coup, parce que tout à l'heure tu faisais une petite allusion à Tintin et tout, donc voilà, tu mets toi que tes BD se lisent donc de 7 ans à 99 ans, et tu fais ce qu'on appelle donc de la ligne claire, donc automatiquement, bien sûr, ça rappelle Tintin et Hergé. C'est vraiment un chemin que tu as voulu suivre, ou c'est au fur et à mesure que tu t'es aperçu que...
Non, en fait, si tu veux, j'ai appris à dessiner en reproduisant les Tintins de mon grand-père. Il n'y avait pas beaucoup de BD à la maison, à part les vieux Tintins. Mm-hmm. Donc j'ai appris à faire de la ligne claire sur Tintin. Et ensuite, c'est le mouvement graphique dans lequel je dirais pas que j'excelle, mais c'est le mouvement graphique dans lequel je suis le plus à l'aise. Après, j'ai dessiné du réalisme, du style manga, tout ça, mais ça ne m'amuse absolument pas. Alors que la ligne claire, j'aime bien ça. Et puis voilà, et puis bon, ça ressemble à Tintin, oui, mais en même temps, Tintin, c'est aussi Pécassine. J'ai envie de dire que Tintin ressemble aussi à Crassé, c'est le portrait Crassé de Bécassine.
Non, parce que j'imagine que, enfin, comme tu fais beaucoup de festivals, on a, je pense que souvent on a dû te faire la référence, non? Ou pas spécialement?
Oui, bon, j'ai au moins 10 pèlerins qui me la font chaque semaine.
Mais toi, ça fait 11.
Je parle de pèlerins parce que ce ne sont même pas des lecteurs, c'est des gens qui passent et qui vous font la réflexion facile, quoi.
D'accord. Et donc, on va revenir, donc, parce que tu ne fais pas quand même Tintin, mais tu fais donc les aventures de Elias et Arthur. Et c'est impressionnant tous les albums que tu fais. Raconte-nous un peu voilà, ta bibliographie, parce que franchement, moi, je suis épaté.
Voilà. Ouh là, la raconter, bah, c'est pas très compliqué. La série a 10 ans cette année. C'est les 10 ans des personnages. Je sors à peu près 2 albums par an. Et tout confondu, je dois être à 18 ou 19 ouvrages, entre les tirages de tête, les tirages spéciaux. Oui, ça commence à faire pas mal de trucs. Et donc, pour les 10 ans, j'ai au mois de juin un album qui sort avec de très grands scénaristes. J'ai travaillé avec Erok, j'ai travaillé avec Cazenov, avec Marniquet, avec Roger Setter qui travaille sur la série Le Franc. J'ai travaillé aussi avec Fabien Ripper, qui est le Grand Prix Alphard des années 90, qui est auteur de Boogie et Rana, et puis plein d'autres avec Carbone, qui est chez Dupuis, et pardon, ceux que j'ai oubliés.
ça va être un joli album, franchement.
Pardon ?
Je dis, ça va être un sacré album, justement.
Oui, ça va être un super album. Donc, bien sûr, j'ai voulu le présenter aux éditeurs en ayant autant de grosses têtes dedans. Puis bon, bah, comme je suis auteur indépendant, bah, c'est le truc classique, quoi. C'était indépendant, t'es sorti du système, tu n'y rentreras plus. Bah, j'ai envie de dire tant pis pour eux, parce que Elias et Arthur, ça fonctionne très bien. Et bah, c'est eux qui se privent de quelque chose, et pas moi, puisque moi, je n'en suis pas plus que ça embêté.
Exactement, oui, parce qu'en fait, voilà, donc, dessinateur, scénariste, coloriste, en fait, tu as une multifonction, on va dire, t'es mieux qu'un couteau suisse, comme on dit.
Je suis une petite tâche.
Et franchement, voilà, tu fais vraiment tout, et justement, ça peut être évident, chaque semaine, de gérer, comment tu fais, il y a un moment où tu deviens juste éditeur, ou tu deviens juste dessinateur, comment tu t'organises ces semaines?
Ah bah, pour le moment, j'ai envie de te dire que je suis un peu tout, c'est facile, puisque les albums que je vais éditer d'autres auteurs sortent que l'année prochaine. Donc pour le moment, je n'ai que ma gestion à moi. Bon, j'ai une comptable qui travaille sur la partie comptabilité juridique. Mmh. Puis après, le reste du temps, bah, je dessine, j'anime des ateliers. Enfin, j'ai un emploi du temps très très chargé. Mais pour le moment, c'est encore gérable. Après, c'est sûr que je devrais déléguer et puis employer certainement des gens, mais on n'est pas encore là, à cette échelle.
Mais c'est là où c'est quand même assez impressionnant. J'ai dit, tu es le globe-trotteur de la BD, parce que quasiment, même je crois, chaque week-end, oui, tu es en festival.
Voilà, c'est ça. Bah, à une époque, on m'appelait le gitan de la BD. C'est le mec qui n'est jamais au même endroit et qui reste jamais trop longtemps au même endroit. Mais bon, que je rassure tout le monde, j'habite bien à une adresse fixe. C'est juste que oui, je fais des festivals toutes les semaines. Alors je parcours pas que la France, hein. Je suis aussi en Belgique, Luxembourg, Suisse, et puis je crois que c'est tout. Pays-Bas pour l'année prochaine qui vient de s'ajouter, parce que j'ai des traductions.
Voilà. Tu t'es amusé à calculer combien ça fait de kilomètres par an ou non pas spécialement? Ou combien de festivals par an
ça
fait?
Ah bah les kilomètres, j'ai envie de te dire qu'avec moi une voiture ça fait 4 ans et ensuite c'est bon pour la casse, j'ai même pas le temps de passer un contrôle technique.
Ah oui, tu m'étonnes parce que chaque semaine sur Facebook je vois que t'es là, mais là ce week-end t'étais, j'ai même vu que t'as dû faire un atelier, justement on va parler des ateliers BD que tu fais pour les enfants, qu'il y avait tellement de monde que t'as été obligé de vous mettre dehors.
Oui voilà, bon c'était pas plus mal hein, parce qu'il faisait hyper chaud à l'intérieur, mm-hmm. On a eu un super week-end estival donc c'était pas plus mal d'être dehors.
Et comment ça se passe donc? Parce que je pense que ça va être magique quand même de transmettre son talent à des jeunes dessinateurs, oui, des futurs dessinateurs. Comment ça se passe avec les enfants?
Bah ça se passe hyper bien. J'ai envie de dire que c'est mon meilleur public. Je prends généralement les CECM, voilà, en cours préparatoire, à école primaire, pardon. Et ça se passe toujours bien parce qu'ils repartent avec des étoiles dans les yeux. Alors au début du cours, je sais pas dessiner, enfin les phrases classiques. Et à la fin du cours, quand je leur ai montré que c'était pas si compliqué que ça, bah, ils sont hyper contents, ils repartent avec leur livre dédicacé. Et puis voilà, à chaque fois, je fais une vingtaine, une trentaine d'heureux.
voire même plus, parce qu'il m'est arrivé des fois sur des week-ends d'avoir plus de 250-300 enfants sur les ateliers.
Ah oui, c'est pas des petits ateliers, oui.
Non, des fois c'est des gros ateliers. Quand sur certains festivals, tu arrives le mercredi soir, tu es jeudi, vendredi dans les écoles, et là tu enchaînes 4 à 5 classes par jour, donc enfin plus 4, parce que quand c'est 5, je dis la cinquième, ce sera juste une conférence, parce que c'est vraiment fatigant. Mais ouais, quand tu enchaînes déjà 4 classes par jour pendant 2 jours, voire même pendant une semaine, bah, t'es sur les rotules à la fin.
Ah,
et
oui,
en plus,
oui,
tu dois enchaîner et le festival et le retour sur la route.
Ah oui, ce que j'allais dire. Franchement, chapeau. Mais justement, alors bien sûr, sans dire de prénom, mais est-ce que depuis que tu fais les ateliers BD pour enfants, est-ce que, je sais pas, tu as repéré un gamin, on va appeler ça un enfant, oui, de 10-12 ans, c'est ça à peu près. Est-ce que tu penses qu'il y en a un qui pourra faire vocation plus tard, rien que son cours de cri actuel, ou non, pas spécialement?
Bon, il y en a pas un spécialement. Je pense que le dessin, c'est vraiment du travail, c'est donné à tout le monde. J'en ai qui ont déjà des bons coups de crayon, mais si tu veux, je ne garde pas contact avec les enfants
oui, bien sûr,
à l'IQ, malheureusement. Oui. Même si je leur propose, je garde pas contact. J'ai jamais eu de message des parents m'envoyant les dessins des enfants. Pourtant, je les proposais maintes et maintes fois.
Oui.
Mais je pense qu'il y a toujours un petit frein du côté parental, comme moi j'en ai eu un quand j'avais cet âge-là. Les gens ont encore la vision de auteur, enfin plus artiste égale mal payé, ne peut pas faire sa vie, donc on va éviter de mettre nos enfants dans cette voie professionnelle, quoi.
C'est vrai que malheureusement on entend souvent, c'est-à-dire tu vas pas faire de la BD, fais un vrai métier. Ça, je l'ai
dit. C'est plus qu'un vrai métier, j'ai envie de te dire, quand je suis à la maison et que je travaille, c'est 10 heures par jour, c'est vraiment un travail intense. Les week-ends, je suis en festival, je suis pas assis, c'est pas la fête, quoi. Je suis là au travail et c'est hyper fatigant. Généralement, les fins de tournée, je finis une semaine collé au lit parce que je suis hyper fatigué et tout ça, quoi.
Oui, j'avoue, c'est pour ça que je dis, quand je vois que chaque semaine t'es par Mons et par Beau, j'avoue, franchement, ouais, c'est top. Par contre, je vais rebondir sur les ateliers BD, parce que je crois me souvenir que tu as fait la version papier d'un atelier BD, c'est ça?
Oui, comme le professeur d'histoire a son livre d'histoire, moi j'ai mon livre pédagogique Atelier BD.
D'accord.
Donc c'est le livre qui m'accompagne dans les ateliers, et dedans il y a des exercices, il y a le schéma qu'on doit suivre pour créer une bande dessinée, et c'est vraiment un support papier pédagogique qui me suit tout au long de mes ateliers. C'est le livre qui est également pour les enfants de l'atelier, c'est-à-dire que chaque enfant repart avec le bouquin à l'issue de l'atelier.
Et si bien sûr quelqu'un veut le commander, il peut te le commander?
Oui, mais j'aime pas trop ça.
Non. Ah d'accord, ok.
Ah non, ça reste vraiment
un outil pédagogique.
Vraiment pour les enfants, un outil pédagogique pour les écoles. Quand je vais vraiment à la rencontre des élèves, c'est vraiment un cadeau que je leur fais. C'est pas, il y a un prix de vente, parce que des fois il y a des parents qui ont un petit frère ou une grande sœur qui veut le bouquin, donc je peux leur proposer. Mais là j'en suis à la cinquième édition de l'ouvrage. Les quatre précédentes n'étaient pas du tout réservées à la vente. C'est-à-dire
D'accord.
que c'est la première fois au cinquième tirage que le livre est proposé à la vente.
D'accord. Et bien écoute, comme je dis à chaque fois, et c'est vrai malheureusement, la première partie est déjà finie. On va se quitter pendant la pause musicale avec ton choix musical justement. Tu as choisi Power of Love, c'est juste la bande originale de Retour vers le futur, et on adore tout ça. On se retrouve après sur les mille et une bulles. Merci Sylvain.
À tout de suite.
Présence à Figeac 97.7.
Et nous voilà donc de retour, les Mille et Une Bulles, que je consacre cette semaine à Sylvain Aymès, le créateur de Elias et les aventures d'Elias, pardon. Et donc du coup, Sylvain, nous allons dans la seconde partie, et j'ai une question rituelle que je vais te poser, mais vu ton planning surchargé, je m'attends à une réponse, j'allais dire, je ne sais même pas si je m'attends à une réponse. Il n'y a pas que la BD dans la vie, comme on dit. Est-ce que tu as vraiment le temps de faire autre chose ?
Non, parce que voilà. La bande dessinée, c'est mon travail. Je n'ai pas d'autre activité à côté, à part m'occuper de mes enfants et passer du temps avec ma femme. Si peu de temps ai-je.
Et oui, voilà, c'est pour ça que j'ai dit, il est voilà, globe-trotteur de la BD, jamais fait. Toujours un par mon et par vous, donc c'est pour ça que la question, je m'attendais à la réponse, mais bon, c'est une question rituelle, je te la pose. Question technique, par contre, cette fois maintenant, c'est est-ce que tu travailles en traditionnel ou en numérique sur tes BD ?
Oui, ça dépend. Ça dépend. Au début, j'ai travaillé en traditionnel, et une fois que j'ai eu assez de planches pour pouvoir faire des expositions quand on me demande, je suis passé au numérique. Donc, comme tous mes albums passent par une campagne de financement sur Ulule, j'ai quelques personnes qui m'achètent des planches, donc j'ai encore quelques planches sur les nouveaux albums.
D'accord.
J'en fais aller une dizaine, mais ensuite, vraiment, tout est en numérique, ce qui me permet aussi de gagner du temps, parce que j'ai quand même 2 à 3 sorties par an. Donc, c'est beaucoup de boulot pour faire un 46 pages. Si je devais faire en traditionnel, ensuite faire le nettoyage et ainsi de suite, ça me prendrait trop de temps.
Oui, j'allais dire, parce que 2 à 3 albums par an, tu dis ?
Voilà, c'est ça.
C'est énorme. C'est énorme. Ouais.
C'est pas si énorme que ça. Je te rappelle que Tibé faisait 4 ouvrages par année.
Ah oui.
Le créateur de Ricochet faisait 2 Ricochets et 2 Chick Bill sur une année.
D'ailleurs, c'est un grand monsieur quand on s'en rappelle, oui, Ricochet. Et c'est une BD pareil qui a bercé mon enfance, moi, de mon côté. C'était magnifique.
Ouais.
Donc, du coup, maintenant, on va pour la deuxième partie de l'émission. Donc, le traditionnel portrait chinois, donc où je te pose des questions. Et bien sûr, au tac au tac, tu me réponds ce qui te passe par la tête. Parti, c'est
bien. D'accord. Est-ce que je dois répondre avec l'accent chinois ?
Comme tu veux.
Non, on va éviter.
Alors, première question toute simple. Si tu étais un animal ?
Un chien.
Ah oui, tu aimes les chiens.
J'aime les caresses.
je m'attendais pas à cette réponse.
Pardon ?
J'ai dit je m'attendais pas à cette réponse.
Non, mais c'était pour rire.
Ah oui,
non, je pense que c'est un animal qui est quand même aimé de l'homme. Mmh. Et donc voilà, je pense que oui, un chien, c'est bien.
Enfin, je suis d'accord avec toi, parce que moi j'en ai 3 à la maison, donc je sais ce que c'est vrai. Ils sont très... des fois plus humains que certains humains, j'allais dire. Si tu étais une planète ?
Mars.
Ah.
Oui, on a envie d'aller l'explorer, donc comme ça, ça donne de l'intérêt à qui je suis. Moi, j'ai envie qu'on vienne me découvrir en festival et qu'on découvre mon travail. Donc, je pense que l'intérêt de l'humain en ce moment, c'est plus la Lune, c'est Mars. Donc, j'aimerais bien être Mars.
Mais je vais d'abord rebondir là-dessus parce que tu as fait un album sur l'espace.
Il n'est pas encore sorti,
il est encore en cours, je croyais que tu...
Destination Mars sort fin d'année, début d'année prochaine.
D'accord, mais en même temps, ça m'a permis de faire la pub. Donc Destination Mars, fin d'année prochaine.
Non, fin d'année de cette année.
Ah pardon, fin d'année, oui. Oh, ce matin, je dois être fatigué, je dis que de bêtises. Donc fin d'année 2024.
Monsieur Superman, t'as vu son super t-shirt, alors du coup...
Et oui, moi je l'ai pas le t-shirt, donc comme j'ai pas le t-shirt, du coup j'ai pas les pouvoirs, c'est pour ça. Donc ouais, fin d'année 2024, on s'approche.
La bif fait pas le moine, hein, Chris.
Oui, la bif fait pas le moine, mais c'est toi qui as le t-shirt. Moi, j'allais dire, je m'occuperai du slip, on va s'arrêter là. Je sais pas si tu es gourmand, mais si tu étais un dessert...
Une crème brûlée.
Ah, comme moi. Et Armand, Armand qui est gourmand, mais il est sûr qu'il commence à saliver déjà. Hein, Armand ?
C'est ça.
Surtout que là, il est l'heure de bientôt manger le dessert.
Et oui, et puis bon, il est très très gourmand. N'est-ce
moi,
pas ?
Je suis très sucré, pareil. Ah.
Mm-hmm. Alors, aucun rapport avec le dessert, parce que c'est vraiment des questions qui changent à chaque fois. Si tu étais un dieu grec...
je vais dire Dios parce que j'en connais pas 36.
Oui, c'est vrai, oui, dans les durées, oui, il n'y a pas Zeus, Apollo, mais après, oui.
Voilà, j'ai le copain Philippe Larbier qui fait les petits mythos, donc je devrais être un peu plus au courant des dieux grecs, mais je t'avouerai que les noms, je les ai pas retenus, à part Hercule, et c'est pas
un
dieu.
Oui. Et d'ailleurs, ça fait penser, tu parles de dessinateur. Alors, là, c'est un peu la question piège parce que tu connais tellement de monde, mais je vais quand même. La poser, si tu devais, enfin, un dessinateur de BD célèbre que tu apprécies son univers, pas spécialement la personne, mais si tu devais choisir un auteur de BD célèbre, lequel tu choisirais?
Oula, oui, en effet, c'est compliqué. Surtout que j'ai la chance d'avoir en ami tous les auteurs que je lisais étant jeune. Donc,
d'où la question piège.
Ouais. Alors, en plus, tu vas faire des mécontents s'ils écoutent la réponse.
Bah après, tu peux dire des dessinateurs ultra célèbres, genre, je sais pas, Uderzo, voilà, pour pas...
Ah non, même pas. Même pas. Je suis très copain avec Marniquet, on s'entend très bien avec Frédéric Marniquet, qui est le scénariste de Buck Danny, et puis de le dessinateur de plein de séries à son compte. Sinon, le plus vieil ami que j'ai dans la BD, c'est Marc Westerlin, oui, que je lisais étant jeune avec Docteur Poche et Jeannette Pointu.
Ah ouais, ça c'était...
Et je sais que quand je vais en festival du côté de Jeumont, dans le Nord, bah, je passe le week-end chez lui, et puis là, je suis comme un enfant dans son grenier à regarder les planches, les dessins, et ainsi de suite.
Ah ben, tu dois être au paradis même.
Voilà, c'est ça. Ah. C'est le lecteur qui est encore ébahi devant son ami. Pourtant, on se connaît, il m'a même préfacé un album. Et on se connaît très bien, mais ça reste, je suis comme dans un musée, en fait, ouvert. Et j'ai la chance d'avoir connu mes maîtres de BD et d'être ami avec eux. Et je parle au passé parce que j'en ai un qui est décédé. Malheureusement, Malik n'est plus de ce monde.
Oui, malheureusement.
Malik,
ouais.
Qui m'a beaucoup épaulé, ouais, au début de ma carrière, et retouché mes dessins. Et d'ailleurs, c'est pour ça que j'ai un de mes personnages qui est l'avatar de Malik dans mes albums.
D'accord. Oui, c'est vrai que ouais, regretter Malik, on pense à lui. Les deux dernières questions avant de clôturer ton émission. Alors, c'est une question double. D'abord, est-ce que si tu étais une qualité? Je sais, c'est pas évident.
La perfection. Alors c'est pas vrai, ma femme serait là, elle dirait non, t'es pas parfait. Je sais que je suis pas parfait parce que je suis râleur et j'ai un mauvais caractère.
Ah.
Mais on vise tous la perfection, donc pourquoi pas la perfection, oui.
Alors justement, je vais rebondir sur ce que tu viens de dire à la fin du côté râleur et tout, parce que l'autre question c'était, et si tu étais un défaut, donc tu viens de le dire en fait.
Voilà, le côté râleur, je suis assez, en fait je suis quelqu'un de franc, je suis assez brut de décoffrage, quand j'aime pas.
D'accord.
Quand je suis pas content. Et quand on m'énerve, je le dis. Voilà.
On va essayer de ne pas t'énerver, alors, du coup.
Moi, je suis aussi assez bonne personne à rire et à passer du bon temps. Je préfère plus passer du bon temps que de râler.
Ah, mais de toute façon, honnêtement, sur les photos, parce que bon, voilà, je te suis entre autres sur les réseaux, à chaque fois que tu vois en photo un festival, tu as toujours le sourire. On sent que tu es heureux,
oui,
là-bas.
Bah... En même temps, je ne vais pas me mettre en photo en train de pleurer. Facebook, c'est ma vitrine professionnelle, je ne vais pas me mettre dans un coin en train de pleurer.
Ouais, mais ça fait plaisir à chaque fois qu'on te voit. C'est rare même, ça a toujours le sourire, c'est même rare que tu n'aies pas ne serait-ce qu'un demi-sourire. Non, franchement.
Non, bah, après je suis content de retrouver les copains. T'sais, en 10 ans, je me suis quand même fait un grand réseau de copains. Et bah, à part le fait de s'appeler au téléphone, on se voit qu'en festival. Donc pour moi, aller en festival, la première chose que je fais quand je suis invité, c'est que je demande qui d'autre est invité. Et j'avouerai que ça joue beaucoup aussi sur la réponse que je vais donner au festival, si je dis oui ou non. Parce que bah, moi, j'y vais aussi pour travailler, mais aussi pour revoir mes amis. Voilà, ils sont tous d'une génération au-dessus de moi, donc je profite de ce temps-là, parce que dans 30 ou 40 ans, je serai peut-être tout seul à aller en festival, parce que tous mes amis ne seront plus là.
Et oui, on va retarder l'échéance, mais oui, malheureusement. Mais
oui, voilà.
Dernière petite question, parce que tu es à un festival chaque semaine, mais donc on est d'accord que tu dois en refuser.
Obligé, oui,
il n'y a pas, il n'y a qu'au week-end. Oui.
C'est simple, étant auteur indépendant, il y en a beaucoup qui essaient de me la mettre à l'envers, en voulant me faire payer des trucs, donc moi je me déplace que si je suis invité.
Normal.
Et il faut pas oublier que auteur indépendant, ça veut pas dire auteur que personne ne veut. Mm-hmm. Je rappellerai quand même que Peyo, Uderzo, Franquin, Maurice, Hergé, tous ceux-là ont été indépendants et j'en oublie beaucoup. Hein, tous les maîtres de bande dessinée, à un moment, on dit stop à au schéma éditorial et on dit je vais me débrouiller tout seul, j'aurai plus d'argent. Le fait d'être indépendant, c'est juste choisir une autre rémunération. Ça ne joue en rien sur la qualité du travail.
D'accord.
Donc il y en a qui disent voilà, c'est un indépendant, on va le mettre dans le coin. Tout ça, je refuse. Je n'accepte que ceux où je suis invité et avec qui je suis. En copinage, ou alors parce qu'il y a des copains qui m'y font inviter, et puis voilà. Mais oui, j'en refuse forcément beaucoup.
Oui, de toute façon, il y a que 4 week-ends par mois, donc c'est délicat.
Mais écoute, voilà, et puis j'ai une vie de famille, donc si je veux aller en festival, je me prive de ma vie de famille, j'avance pas sur mes albums, donc il faut que j'ai une bonne raison.
Voilà, exactement. Eh bien, écoute, je pense que le message est bien passé. Je te remercie beaucoup, Sylvain Metz, d'avoir pris le temps de répondre donc au mini une bulle. En plus, on a eu des aléas, j'avais dû annuler une ou deux fois, donc je te remercie cette fois qu'on ait pu s'accorder.
Merci à toi d'avoir pensé à moi.
Eh bien, écoute, ça avait grand plaisir. Mais à force de te voir, j'ai dit, tiens, il faut que je lui parle. À force de le voir sur Facebook, il faut que je lui parle en vrai. C'est fait, je suis heureux et je t'en remercie.
Mais il n'y a pas de souci.
Merci, Sylvain.
Merci aux auditeurs et merci à vous.
Avec grand plaisir. Au revoir.
Au revoir.
Les mille et une bulles. Chaque semaine, un entretien avec un auteur BD. Une émission présentée et animée par Chris Arnal.